Et oui, le débrief, c'est tout de suite. On est ensemble et en direct jusqu'à 1h du matin. Qui s'est démarqué? Qui a fait la différence? On va en parler avec toute l'équipe. Bonsoir Anna Cabana.
Mais bonsoir chère Julie.
Bonsoir Benjamin Duhamel qui rigole déjà.
Non, j'ai le sourire de presse débat.
Bonsoir Pablo Piovigia.
Bonsoir.
Bonsoir Charles Consigny.
Bonsoir.
Bonsoir Arnaud Stéphane.
Bonsoir.
Et bonsoir Bruno Jeudy.
Bonsoir Julie.
Je vais commencer par vous, ma question est très originale. Qui a fait la différence? Qui a été le meilleur ce soir?
Alors moi, je vais dire qui a fait la différence et qui ne l'a pas faite, pour être précis. Il y a que Raphaël Glucksmann a fait la différence dans le match qu'il avait à distance avec Valérie Ayer. Et Valérie Ayer, pour le coup, inversement, n'a pas du tout fait la différence. Et je la trouve assez en difficulté ce soir à l'issue de ce débat.
Arnaud Stéphane.
Je suis assez d'accord sur le duel de ce qui pourrait être la suite de la gauche. Glucksmann a été assez fort. J'ai trouvé Bardella assez en retrait finalement. On l'a pas beaucoup entendu. Il est très attendu dans ses interventions. Marion Maréchal a été solide. Elle a bien pris le débat à son compte. Et après, c'est vrai que Valérie Ayer, ça a été très 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 difficile ce soir.
Charles Consigny.
Écoutez, sur le plan de l'analyse pure et sans aucune adhésion, moi je trouve quand même que Bardella est assez efficace dans ce débat très technique où beaucoup s'emberlificotaient dans des choses assez compliquées. Je trouvais que lui, il avait une manière d'aller droit au but sur des fondamentaux simples et je pense que dans le brouhaha général, c'était assez efficace. Glucksmann, dans son genre, était pas mal, mais moi, je ne l'ai pas trouvé particulièrement convaincant. Et je suis d'accord pour dire que malheureusement pour elle, même si elle s'est un tout petit peu rattrapée, j'ai trouvé sur la conclusion,
Valérie Ayer
était complètement larguée.
Vous avez été plutôt convaincu donc par Jordan Bardella,
non,
et ça tombe bien.
Pas convaincu, mais en tout cas,
c'est lui qui ressort du lot.
J'ai précisé que je n'étais pas convaincu.
Jordan Bardella est avec nous, Charles Consigny.
Je trouve qu'il est dans le brouhaha général,
micro,
il sait faire simple.
Il est au micro de Thomas Soulier. On l'écoute. Quelles sont ses impressions, Thomas? Et c'est Sophie.
Jordan Bardella, c'est un débat à 8, mais vous l'avez transformé un peu en duel avec la candidate qui était à votre gauche, Valérie Ayer. Vous n'avez pas pris de risque et puis vous avez concentré vos attaques sur elle. C'était ça votre stratégie ce soir?
C'est pas tant moi qui ai transformé ce débat en duel que les Français qui ont transformé depuis maintenant plusieurs années la vie politique en une confrontation entre évidemment l'Europe de Macron, le Rassemblement National que je représentais ce soir.
Vous avez concentré vos coups sur Valérie Ayer.
Mon adversaire dans cette élection, c'est évidemment la liste d'Emmanuel Macron, parce que je pense que je suis la seule liste qui est capable de battre Emmanuel Macron, que ce soit au niveau français mais aussi au niveau européen. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai une confrontation, on va être plus dirigée vers mon opposante macroniste. Ouais.
Aucun échange de coups avec la candidate Reconquête, Marion Maréchal. Il y a un pacte de non-agression entre vous. Vous l'avez même appelée à un moment Marion, par son prénom.
Oui, parce que vous savez, elle était au Rassemblement National avant, et donc on se connaît. C'est un scoop pour personne, mais on est d'accord, je pense, sur l'essentiel. Et donc moi, j'appelle aussi évidemment les électeurs qui sont tentés de se disperser, que ce soit sur Marion Maréchal ou sur François-Xavier Bellamy, de voter utile, parce que encore une fois, notre pays, je crois, mène une course contre le temps, et je pense que face aux dangers, notamment de l'immigration massive et des politiques qui sont menées en France, mais aussi à l'Union européenne, il faut que les Français se rassemblent derrière le seul vote utile qui peut arriver en tête de ces élections, battre Macron et demain mettre en place un tournant migratoire qui est attendu, je crois, par une majorité de Français.
Merci Jordan Bardella, merci beaucoup.
Et merci à vous, Sophie Dupont. On va retrouver donc Thomas Soulier, qui lui est en fait avec Raphaël Glucksmann. C'est à vous, Thomas, quelles sont ses impressions?
Raphaël Glucksmann qui me disait à l'instant que c'était un petit peu long ce 3h12, mais vous êtes en forme, ça va encore après 3h12. Juste un petit mot, ce qui m'a frappé durant ce débat, c'est que vous avez été attaqué. C'est normal, vous êtes plutôt haut dans le sondage, mais attaqué par qui? Par vos alliés de gauche. Ça vous a étonné, ça?
Non, j'ai été attaqué par la gauche, par l'extrême droite, par Valérie Ayer à plusieurs reprises. D'ailleurs, c'est toujours les mêmes attaques de débat en débat. Mais je pense ça très bien, c'est-à-dire qu'au moins je ne laisse pas indifférent et en plus je pense que c'est lié à la dynamique qu'on a en ce moment dans le pays.
Vous avez dit à Manon Aubry, lâchez-moi les baskets, on sentait un petit peu de colère quoi.
Non, c'était pas de la colère, mais c'était à force. C'est-à-dire qu'il y a une extrême droite à 40% et que les autres listes de gauche passent leur temps à me taper dessus, je veux bien. Mais moi, mon ennemi principal, c'est l'extrême droite. Donc je comprends leur stratégie. Les électrices et les électeurs jugeront. S'ils considèrent que la social-démocratie, c'est l'ennemi à abattre au moment où Bardella fait 33% et que l'extrême droite ensemble fait 40%, qu'il y a cette vague d'extrême droite dans tout le pays, eh bien, je pense qu'on peut à minima parler d'erreur stratégique.
Vous pensez que ce débat peut vous faire passer deuxième dans les sondages ?
Ah, je n'ai aucune idée.
Votre espoir, peut-être.
Jamais de pronostic. Vous ne me prendrez pas à ce jeu-là. Vous essayez.
On essaie pourtant.
Vous essayez depuis le début de la campagne, mais vraiment. Et moi, je vous le dis, je ne fais pas de pronostic. Donc, je ne sais pas quel sera l'impact de ce débat. Je ne sais pas si les courbes se croiseront ou pas. Et ce que je sais, c'est que je ferai tout pour que cette campagne continue à être ce qu'elle est depuis le début pour nous, c'est-à-dire une dynamique enthousiaste, et pour porter le message que nous sommes à la fois un vote efficace, mais surtout, surtout, un vote de cœur, que les gens votent heureux. On en a marre qu'ils se scindent pour aller dans l'isoloir à chaque fois qu'ils aient à choisir entre une partie d'eux-mêmes contre une autre. Non, on peut voter heureux.
Merci d'avoir joué les prolongations avec nous. Et regardez, je me déplace un petit peu celle-ci. Et cette candidate est toujours deuxième dans les sondages. On va interroger Valérie Rayer. Vous voyez, c'est Léopold Audebert qui est pour TikTok, qui pose des questions parce qu'on est moderne sur BFM TV. Et Léopold, désolé, on passe la main à Valérie Rayer. Alors, il est sur TikTok, mais une petite question. 3h12 de débat, je le disais. On vous a senti un petit peu parfois en retrait, comment on l'explique ? C'est la fin de campagne, c'est la fatigue, c'est le fait de les laisser s'écharper entre eux ?
J'ai été présente, j'ai passé les messages principaux sur chacun des sujets. Je pense que ça a été un débat intéressant pour voir qu'on avait des points de divergence majeurs sur chacun des thèmes qui ont été envisagés. En tout cas, moi, je me suis attelée à expliquer, convaincre les Français que non seulement ils avaient besoin d'Europe, je pense que c'est un point important, et que ma liste, elle porte le projet le plus utile pour les Français, pour leur pouvoir d'achat, pour leur sécurité, et aussi pour faire face aux grands défis du monde.
Sur la partie climat ou encore immigration, vous êtes pris directement à Raphaël Glucksmann. C'est désormais lui votre principal rival.
Moi, je m'attache à démontrer la pertinence et l'utilité de mon projet face à celui de l'ensemble des candidats. On a Jordan Bardella qui aujourd'hui est très haut dans les sondages et je ne m'y résous pas. Je pense que fondamentalement, le projet pour l'Europe, c'est le projet contre l'extrême droite. Et puis après, j'ai des divergences de vues profondes avec d'autres candidats. Vous citez Raphaël Glucksmann, mais François-Xavier Bellamy ou d'autres, évidemment.
Est-ce que ce genre de débat, selon vous, ça peut faire changer l'opinion des Français et faire bouger peut-être les sondages ?
Je pense que c'est utile. Les Français commencent progressivement à s'intéresser à l'élection européenne. Et évidemment, ces débats, ils sont intéressants pour exposer les différents projets.
Merci beaucoup, Valérie Rayer. Vous le voyez, Julie, ici, il y a peu de monde, quelques candidats qui parlent avec leur équipe, leur entourage pour débriefer ce débat. Et maintenant, le débrief, c'est pour vous.
Merci beaucoup, Thomas. On va donc poursuivre le petit tour de table. Anna Cabana, Valérie Ayé, c'est la perdante. Vous êtes d'accord avec ce qu'ont dit vos camarades à droite ?
Alors pour moi, le perdant, c'est le charisme, la pétillance. C'est-à-dire que c'était pas, voilà, il y avait pas de pétillance et pas de charisme autour de cette donc sur ce plateau. Mais quand même quelques punchlines du côté de Raphaël, bonne punchline du côté de Raphaël Glucksmann, une efficacité certaine chez Manon Aubry et Marion Maréchal. En revanche, pas beaucoup d'efficacité chez Valérie Ayé. Là, je vais pas me démarquer de mes petits camarades. J'ai pas trouvé on la sent fatiguée quand même. On la sent vraiment fatiguée. Chez Jordan Bardella, j'ai pas trouvé que c'était du grand Jordan Bardella. Je dirais pas ça du tout. Il y a pas de sortie de route. Voilà, il a pas fait de faute de quart. Et Bellamy nous avait habitué depuis quelques jours à des petits coups d'éclat, à des petits happenings. Là, il y en a pas eu. Voilà.
Donc, vous avez dénoncé le déni de démocratie lors du dernier débat entre Gabriel Attal.
Absolument, il était venu sur France 2 juste après, et puis il était venu aussi sur à Sciences Po en pleine agitation. Il y avait eu une irruption de François-Xavier Bellamy. Là, ce soir, non. Voilà, il n'y a pas eu de coup d'éclat de Bellamy. Non.
On a quand même l'impression que c'est Raphaël Glucksmann qui ressort. Quel est votre regard à vous, Benjamin Duhamel ?
Écoutez, Julie, il y avait 8 candidats sur ce plateau. Je crois qu'en réalité, on peut les scinder en 2 groupes. Je suis pas certain qu'il y ait de vainqueurs éclatants ni de perdants unanimes. Dans ceux qui ont réussi à sortir leur épingle du jeu, je crois qu'effectivement Raphaël Glucksmann a bien répondu aux attaques dont il faisait l'objet, notamment face à Manon Aubry. Thomas Soulier lui, rappelé à l'instant à cette tirade « Lâchez-moi les baskets ». Je crois que ça fera partie des phrases qui resteront de ce débat. Je crois que Marion Maréchal a été plutôt efficace, avec parfois une façon assez singulière de ne pas répondre quand on l'interroge sur la guerre en Ukraine et qu'elle répond ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie ou autre. C'est un peu à côté de la plaque, mais cela peut parler à son électorat. Jordan Bardella, je suis assez d'accord avec Anna, c'était pas du grand Jordan Bardella, mais ça reste relativement efficace. Dans les perdants, effectivement, Valérie Ayer, elle mène une campagne difficile, la dynamique n'est pas bonne. Là, c'est vrai que ce soir, on a senti que c'était particulièrement rude. On verra peut-être des extraits tout à l'heure. La façon dont elle n'a pas réussi à répondre sur la question suivante, faut-il reconnaître ou non un État palestinien, alors que sur sa liste, le numéro 2, Bernard Guetta, plaide pour la reconnaissance d'un État palestinien. Là, une sorte d'ange qui est passé au moment où la question lui a été posée. Très rapidement, François-Xavier Bellamy, pas de coup d'éclat. Marie Toussaint, un peu en difficulté. Et Léon Desfontaines, un petit peu en boucle, c'est-à-dire que on voit bien qu'au précédent débat, il avait cette façon de cibler Jordan Bardella. On sent qu'il réutilise un petit peu ses punchlines et que là, pour le coup, ça sentait un peu le réchauffer.
Pablo, je vous ai pas oublié, mais juste avant, il y a Apolline de Malherbe qui a animé, co-animé ce débat avec Maxime Switek qui nous attend. Et comme c'était quand même sportif ces trois heures à Apolline de Malherbe, on vous garde pas très très longtemps. Mais on voulait avoir votre regard à vous parce que la perception est parfois différente quand on regarde nous et vous, ce que vous avez ressenti face à ces candidats. Qui a été le plus fort ce soir selon vous, Apolline?
Écoutez, c'est difficile évidemment parce que moi j'étais dans l'arène, donc j'ai évidemment beaucoup moins de recul que vous devant vos écrans. Ce que je peux vous dire, c'est que il y a eu plusieurs phases. Vous parliez à l'instant de Raphaël Glucksmann qui répondait aux attaques dont il avait fait l'objet. Étrangement, au début, pendant toute la première partie, on avait vraiment le sentiment avec Maxime que Raphaël Glucksmann, il faisait justement exprès d'être presque une sorte de passe-muraille, voulant qu'on l'oublie et que les balles passent devant lui. Devant lui, c'est parce que en particulier, il avait à côté de lui Jordan Bardella, qui était la cible pendant toute la première partie à peu près de tout le monde autour de lui, c'est-à-dire que Valérie Ayer l'avait pris pour cible, mais aussi Manon Aubry qui était beaucoup dans l'attaque. Manon Aubry a été vraiment une des meneuses de jeu, il faut le dire, avec des attaques pour à peu près tout le monde. Léon Desfontaines, vous le disiez, était un peu en boucle, mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il s'adressait énormément à Jordan Bardella en distinguant systématiquement l'électorat de Jordan Bardella, des positions de Jordan Bardella. L'air de dire, l'électorat de Jordan Bardella, c'est potentiellement le nôtre au Parti communiste, et il s'adressait, d'ailleurs ça a été les mots de sa conclusion, il s'adressait à cet électorat-là. Valérie Ayer, vous le disiez, a été plus en difficulté, je suis d'accord. J'étais frappée que sur les questions internationales, notamment, elle était extrêmement mal à l'aise, et lorsque j'ai fini par lui reposer pour la troisième fois la question aussi de l'aide militaire à l'Ukraine, elle a fini par dire écoutez, je ne suis pas spécialiste de ces questions-là, ce qui est toujours une assez mauvaise réponse quand on est candidate sur des questions justement internationale et européenne, et comme vous le disiez, une contradiction avec son numéro 2 sur la liste sur la question de la reconnaissance de la Palestine. François-Xavier Bellamy, souvent finalement d'accord avec Jordan Bardella sur un certain nombre de points, excepté la question économique qui traverse vraiment son argumentaire. Régulièrement, il revient sur le fait que la France est au bord de la faillite et que ça, c'est important. Marie Toussaint, je l'ai trouvée assez peu convaincue elle-même, c'est-à-dire que même au moment de la conclusion, il y a eu bizarrement ce flottement de quelques secondes, comme si elle-même ne savait plus très bien par quel bout prendre son programme. Ce qui est sûr, c'est que j'ai trouvé globalement que c'était d'un excellent niveau. Ils étaient tous à la fois très solides sur leur position et puis dans un dialogue. Nous, ce qu'on espérait avec Maxime, c'est qu'ils allaient se repasser le ballon, en quelque sorte, et s'adresser les uns aux autres. Je crois que de ce point de vue-là, c'est plutôt réussi.
Merci beaucoup Apolline de Malherbe. On vous libère. Bonne soirée à vous. Je continue mon petit tour. Pablo Piovivien, quel est le gagnant, quel est le perdant selon vous?
Moi, je suis pas très sûr que ça soit très intéressant de ce que, genre, même globalement, nous là, un peu CSP+.
Ah bah si, c'est intéressant. Après trois heures de débat, de savoir qui
vous
a convaincu
ou pas. Pourquoi? Parce qu'il y a eu d'autres débats et on a donné notre avis en fait sur ce qui s'était passé. Et derrière, il y a eu des études d'opinion qui ont dit globalement le contraire de ce qu'on avait pensé. Je pense notamment au débat entre Jordan Bardella et Gabriel Attal.
Je vous expliquerai le biais du sondage.
Jordan Bardella qui a pris un point, qui est passé à 33%, oui, non, alors voilà. Tout le monde disait merci, que ça avait été très compliqué,
sondage,
ça.
Que le sondage.
Merci, Julie. Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que moi, j'aime pas ce truc un peu jury Eurovision où chacun donne des notes, etc. En revanche, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait un vrai clivage
gauche. Il veut pas se mouiller, c'est tout.
Non, c'est pas que je me mouille pas. Moi, je suis un mec de gauche. Donc, je vais vous dire, écoutez, ah bon, moi, j'ai été plus sensible. Non, mais juste, moi, j'ai été plus sensible à l'argumentaire des gens de gauche. Et j'imagine que les gens d'extrême droite qui vont voter extrême, ils ont été plus sensibles à ce qu'a raconté.
Donc, vous avez été plus sensible à Raphaël Glucksmann.
Oui, mais.
Ou Manon Aubry.
Globalement, enfin, je sais pas. C'est pas. Je pense que c'est même
d'accord,
pas ça le sujet.
Répondrai pas.
Non, je répondrai pas à cette question. En revanche, ce que j'ai vu et qui est intéressant,
vert à
mon
l'extérieur,
sens,
rouge à l'intérieur.
À mon sens, exactement.
La gauche pas sec.
Eh ben, ça me va très bien. Non, mais juste, j'aimerais bien aller au bout de mon début d'analyse. C'est que ce que j'ai vu, c'est un clivage gauche-droite sur les questions économiques, sur les questions écologiques, sur la question de la reconnaissance de l'État de Palestine, sur la question de l'immigration. Eh bien, vous aviez une gauche qui modulo quelques agressions, etc., parce que c'est le jeu de la campagne, disait la même chose, et une droite, comme ça a été noté par Apolline, par Sophie, etc., qui disait, une droite et une extrême droite, qui disait à peu près la même chose. En gros, vous avez les quatre de gauche qui veulent reconnaître l'état de l'État palestinien, vous avez toute la droite, Valérie ayez compris, pas compris, on n'a pas très bien compris, qui ne veut pas reconnaître l'État de Palestine. Sur les questions d'écologie, c'est à peu près la même chose. Vous avez les mêmes clivages sur la question du pouvoir d'achat. Eh bien, vous avez des gens qui avancent, en fait, de la dépense publique, plus de solidarité, et de l'autre côté de l'échiquier politique, des gens qui disent, bah non, stop, on va fermer les robinets, on va baisser les charges sociales, et on va permettre plus de fluidité dans le travail. Ben, moi, ça m'intéresse parce que je vous rappelle que ce clivage gauche-droite, c'était quelque chose qu'on avait enterré il y a quelques années, notamment que lorsqu'Emmanuel Macron est arrivé sur la scène politique en 2017. Et en fait, on ne cesse depuis 2017 de voir en fait se réactiver ce clivage.
La gauche qui avait à cœur de montrer qu'il ne s'agissait pas d'un duel entre l'Élysée, le camp Macron et Jordan Bardella, le Rassemblement National. On écoute Raphaël Glucksmann là-dessus.
En fait, votre duo, cette valse à deux qui vise à réduire cette élection.
Voilà pourquoi je voulais pas ouvrir le débat.
Voilà, mais c'est qui vise à réduire cette élection.
On est parti pour un quart d'heure.
Un faux match.
Je vous aurais prévenu.
Entre Emmanuel Macron, qui n'est pas candidat aux élections, ou Gabriel Attal, qui n'est pas candidat aux élections, et le Rassemblement National. On comprend, Valérie Ayer, que les stratèges de l'Élysée désirent absolument faire croire aux Françaises et aux Français que la seule opposition dans ce pays à leur personne et à leur politique, c'est le Rassemblement National. Mais c'est un jeu extrêmement dangereux.
Finalement, le vrai enjeu ce soir, Bruno, c'est de savoir qui était la deuxième pièce. Le premier, on sait que c'est Jordan Bardella, il est au-dessus des 30% et a priori, il semble indéboulonnable, sauf accident, peu probable. La deuxième place, ce sera qui ?
Ben, d'où le fait que Jordan Bardella était sur la réserve. Je suis assez d'accord avec Arnaud. C'est pour ça qu'il n'a pas pris beaucoup de risques. Il fallait juste qu'il renvoie un peu chacun. Et en fait, le match est vraiment entre les deux. Et là, pour le coup, je pense que Raphaël Glucksmann et Valérie Ayer ont fait une belle partie. Là, et Raphaël Glucksmann a ce jeu-là. Sa façon d'ailleurs d'imposer un peu le silence quand il prenait la parole, alors que Valérie Ayer avait des prises de parole plus compliquées, plus pénibles. Ça a été dit notamment sur la question de l'État palestinien, la reconnaissance de l'État palestinien, où là ça a vraiment été le moment le plus pénible pour elle, je pense, du débat et même de tous les débats qu'elle a vécu depuis le début. Est-ce qu'il y a une préparation suffisante, peut-être mise en porte-à-faux avec la position de Bernard Guetta, le numéro 2 de sa liste ce matin, qui reprenait au passage la même position que l'ancien ministre des Affaires étrangères.
Mais pourtant, Bruno, je dis, elle résiste dans les sondages. Dernier sondage Elab pour BFM TV et La Tribune dimanche. Lui, il est à 13%, elle est à 15,5%. Et le fameux croisement de courbe,
oui, elle résiste.
Pour l'instant,
elle
il
résiste.
N'a pas lieu.
Bon, on n'est quand même pas très très loin de la marge d'erreur, donc il va quand même falloir maintenant faire attention puisqu'on rentre dans le money time. Mais c'est quand même le moment, là, il faut voir que ce sondage arrive presque à moins de deux semaines du scrutin. Et là, maintenant, ce qui se passe, un candidat peut comme ça tout à coup décoller et un autre baisser. C'est vraiment le moment compliqué où il ne faut pas faire des fautes. Et ce soir, quand même, elle est un peu en difficulté. Donc là, elle va avoir... je ne sais pas si c'est lié au fait que depuis quelques jours, elle a été effacée un peu par la présence de Gabriel Attal, d'Emmanuel Macron... Mmh. Mais c'est quand même une difficulté pour la candidate
Est-ce
du camp majoritaire.
Est-ce qu'il y a, selon vous, un vrai engouement pour Raphaël Glucksmann ou c'est une sorte de vote utile de la part des électeurs ?
Non, il y a un phénomène Glucksmann. Jusqu'où ira-t-il ? Y a-t-il une forme de, non pas de surestimation, mais de tendance qui va se rééquilibrer à l'occasion que le scrutin va arriver, mais dans un match à gauche, il faut dire que depuis 2017, l'hégémonie était du côté de la France insoumise, dans les urnes, dans la façon dont les termes du débat étaient aussi imposés. Et là, on voit bien, même si Manon Aubry ce soir fait une bonne performance, elle est plutôt, voilà, elle réussit à... Elle donne le ton sur un certain nombre de sujets.
Donc, elle a été un peu effacée ces dernières semaines avec la montée en puissance de Rima Hassan.
Qu'on voit moins ces derniers jours.
Si la France Insoumise avait compris que la stratégie unique d'instrumentaliser le conflit israélo-palestinien s'était un peu retournée contre elle et que...
Mais donc,
on reprend un peu la main.
Il y a une dynamique, Raphaël Glucksmann. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'ambiguïté. On voit bien que les angles d'attaque sont d'ailleurs toujours les mêmes contre Raphaël Glucksmann sur la question de l'immigration, sur la question du nucléaire, parce que là, il est tenu entre sans doute sa conviction profonde, qui est plutôt qu'il faut construire des réacteurs nucléaires, mais sa difficulté de ne pas se mettre à dos un certain nombre d'électeurs écologistes qui seraient susceptibles de voter pour lui. Mais là encore, si on compare avec les équilibres d'il y a 5 ans, c'est frappant. Et Bruno disait il y a un instant, Valérie Ayer, je crois que c'était vous qui disiez, elle tient à peu près. D'accord, elle tient. Mais enfin, si on en est à considérer que Valérie Ayer est candidate de la majorité présidentielle à 15%, c'est une façon de tenir, c'est quand même 15% à une élection européenne, le socle sans doute le minimal d'une forme de centre pro-européen humaniste. C'est-à-dire que si ça tombe en dessous de 15, c'est que là, vraiment, c'est panique à bord. Donc oui, Raphaël Glucksmann, compte tenu de la situation dans les sondages et de la façon dont il a réussi à gérer ce débat, est plutôt dans une bonne dynamique avec une capacité à continuer à aller chercher, notamment les électeurs de Marie Toussaint, parce que, et j'en termine par là, quand on voit où est le bassin de voix qu'il peut aller chercher, notamment chez les écologistes. Et quand on voit ce soir l'incapacité de Marie Toussaint à porter ses thèmes, alors qu'encore une fois, on est dans un moment où jamais le combat écologique n'a été aussi consensuel, jamais la nécessité de lutter contre le réchauffement climatique a été présente, on se pose vraiment la question, non seulement de la façon de la campagne est menée, et surtout de l'erreur de casting de mettre Marie Toussaint. Encore une fois, c'est pas une question personnelle, mais juste par rapport à la campagne que menait Yannick Jadot.
C'est vrai que cette élection européenne, normalement, bénéficie
aux écolos, bien sûr.
Et ça fait des années qu'ils faisaient, d'ailleurs, leur plus gros score, c'était les élections européennes. Et puis après, ils revenaient à un étiage beaucoup plus bas, même s'ils faisaient quelques coups, comme on dit, sur les municipales, mais dans une stratégie d'alliance. Alliance d'ailleurs qui va revenir forcément dans le jeu très prochainement. On voit bien que la multiplication des têtes de liste à gauche est une catastrophe. En plus, il y a des choix de casting qui sont désastreux. C'est vrai que Manon Aubry dépasse très largement ses autres camarades têtes de liste à gauche. Va se reposer la question d'une liste unique qui leur permettrait de sauver très largement les meubles. Parce que ce soir, si on fait une légère progression, si Madame Toussaint continue sa dégringolade, ça veut dire que Europe Écologie Les Verts, enfin les Verts maintenant, ne sera pas présent au Parlement européen.
6 ans 25.
Le Parti communiste ne sera pas au Parlement européen. Je veux dire, tout ça n'est pas, pour la gauche, c'est pas une très très bonne nouvelle.
Non, mais c'est d'autant plus problématique qu'on a vu dans le sondage ELAB il y a 8-9 jours que dans les principaux enjeux reconnus par les électeurs pour ces élections européennes, la lutte contre le changement climatique et la protection de l'environnement arrive en numéro 3. 28% des sondés considèrent que c'est une priorité. Étant entendu que les premiers sujets, c'est le pouvoir d'achat, deuxième sujet, immigration. Donc ça arrive quand même très 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 haut dans la liste. Il y avait 18 thèmes, ça arrive troisième thème pour 28% des électeurs. Or, clairement, ce n'est pas la liste écolo qui va en profiter. Et pour Raphaël Glucksmann, c'est un enjeu. D'ailleurs, on a vu, il s'est animé particulièrement, vous l'avez vu, hein, quand il a été question de l'Europe verte. Alors là, on a
il
senti
a déjà
que,
avalé
que,
un tiers que, des électeurs,
voilà, mais on sent,
Jadot,
oui, mais clairement, sa stratégie est d'essayer d'en avaler davantage. Et ce soir, vraiment, il a mis une énergie encore plus grande à ce moment-là du débat, parce que c'est là que son réservoir
mais quand
est,
même, Raphaël,
a priori,
Raphaël
le plus grand.
Il reste concentré quand même sur aller chercher des électeurs de gauche, et il ne regarde toujours pas du côté des électeurs, on va dire, macronistes de gauche, tant est qu'il en reste beaucoup, mais enfin, en tous les cas, on voit bien d'ailleurs qu'il en prend très peu dans les sondages. C'est donc quand même un jeu de vase communicant à l'intérieur des listes de la NUPES.
Mais c'est un calcul qui n'est pas du tout idiot, parce qu'en fait, quand on regarde ce qui s'est passé en 2017 et en 2022, Jean-Luc Mélenchon a bénéficié d'un vote Mais c'est même pas un vote utile. En fait, toute la gauche a voté comme un seul homme ou femme pour Jean-Luc Mélenchon en 2017 et en 2022. Et là, Raphaël Glucksmann, en fait, il essaye de refaire la même chose. Et c'est naturel parce qu'on est déjà, en fait, dans la perspective de 2027. Et le peuple de gauche se cherche un candidat. Et il est bien Marie lorsqu'il regarde, genre, toutes ces têtes de liste, en fait, qui se multiplient, etc. Donc demain, si on lui dit, c'est Raphaël Glucksmann qui peut potentiellement passer devant Valérie Ayer, qu'il soit insoumis, écolo, communiste ou je ne sais quoi, mais il va aller voter Raphaël Glucksmann. Et ça, c'était pas le cas en 2019. En 2019, on n'était pas déjà plongé en fait dans 2022 comme on l'est aujourd'hui pour 2027 avec ce risque très important de victoire du Rassemblement National en 2027.
Jadot termine à quand même 13, ce qui est le score aujourd'hui qu'on donne à Glucksmann.
Il était assez inattendu.
Oui,
les sondages l'avaient
dans la dernière semaine.
Mais wait and see, Bruno. Tu vas voir ce qui va se passer en fait dans les derniers jours, dans les dernières semaines. Il peut se passer beaucoup de choses
d'ailleurs, parce que je le rappelle qu'à peu près 35% des électeurs font leur choix dans les tout prochains jours, dans la dernière semaine, la semaine du 3 juin. Donc tout n'est pas encore joué. Comment justement dans ce contexte organiser la remontée, la remontada de Valérie Ayer, c'est la question que le camp Macron se pose. Il n'y a rien qui a l'air de marcher. C'est ce que souligne Jordan Bardella. On l'écoute.
La question que vous devriez vous poser sur votre respect, c'est pourquoi est-ce qu'on est obligé de mettre tous les moyens de l'État pour aller vous sauver dans cette campagne électorale? Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'appeler Monsieur Attal, Monsieur Macron pour venir vous sauver? C'est parce que probablement vous êtes en très grande difficulté.
Avec une nouvelle information, Emmanuel Macron qui remet sur la table la possibilité d'un débat avec Marine Le Pen, il a dit « moi je suis prêt maintenant et pas après les européennes ».
Je pense que le problème, d'ailleurs, le Macron, ça fait partie de ce qui... produit les scores des uns et des autres. Vous avez les classes populaires, quelques gens de droite, des jeunes qui se portent massivement vers le RN, aussi dans une optique de sanction contre Macron. Vous avez des gens de gauche Macron a d'une certaine manière beaucoup trahi. Il a été chercher leur voix pour, soi-disant, faire barrage à l'extrême droite. Et puis derrière, il a fait un certain nombre de choses, dit un certain nombre de choses qui ont... donner le sentiment aux gens de gauche d'être trahis. Et je pense que les gens vraiment à gauche, ils se font violence pour voter Glucksmann parce qu'il est en tête et que donc il est le vote le plus utile à gauche. Parce que je pense, moi, pour connaître ces gens-là, je pense qu'il n'est pas assez à gauche pour eux. Ils ont plutôt envie d'aller sur Aubry ou sur Toussaint, mais comme c'est Glucksmann qui est haut et qui veulent manifester leur mécontentement et leur envie de revoter à gauche et de ne plus se faire avoir, entre guillemets, par le en même temps, ils vont vers Glucksmann. Moi, ce qui me frappe chez Valérie Ayer, d'ailleurs, c'est pour ça, je pense qu'elle est tellement en difficulté, c'est que au fond, on ne sait pas très bien pourquoi elle se bat. On ne sait pas très bien quel est le projet. Le projet, il semblerait effectivement que ce soit quand même un peu une Europe fédérale, ce qui veut dire quand même un peu une dilution de la France dans un ensemble plus grand qu'elle. C'est ce qu'on a vu avec, par exemple, la réception du président chinois dans le bureau de Macron avec von der Leyen. Que faisait là von der Leyen? Je veux dire, il faut pas être souverainiste intégriste pour quand même s'étonner qu'elle soit là dans le bureau du président de la République à recevoir le président chinois. Elle peut être là un autre moment, ailleurs, mais là, c'était quand même bizarre. Donc, voilà, on sait pas trop ce qu'elle défend. Je pense qu'elle-même, en fait, elle sait pas trop quel est l'idéal qu'elle porte. Et ça part aussi d'une espèce de mensonge qui est que il serait la Macronie le rempart à l'extrême droite. Et on peut pas indéfiniment tambouriner en disant qu'on est le rempart à l'extrême droite, le rempart au retour des heures les plus sombres, etc. et baser toute notre stratégie sur le fait qu'on a comme seul adversaire l'extrême droite et qu'on veut surtout que les autres adversaires ne montent pas trop. Et je pense qu'elle est prise dans cette espèce d'hypocrisie qui fait que finalement il n'y a plus de sincérité ni de spontanéité, donc ça peut plus marcher. Et pour moi là le disque il marche plus. Elle est sur le toboggan. D'ailleurs il y a un autre sondage que vous n'avez pas cité qui les met presque à égalité. J'ai vu un sondage sorti aujourd'hui où ils sont
Valérie quasiment et Raphaël Glucksmann.
Où ils sont quasiment à 14 à chacun, pas à un point ou un demi point. Ouais. Donc voilà. Je pense que le croisement des courbes il peut tout à fait avoir.
Et la carte. Benjamin, la carte Attal n'a absolument pas marché. On a vu qu'ils avaient essayé de surfer sur cette carte en ajoutant d'ailleurs la photo de Gabriel Attal sur les tracts aux côtés de Valérie Ayer. Il n'y a rien qui marche.
Non, pour l'instant, dans les sondages, il n'y a pas d'effet à Attal. Jordan Bardella continue de progresser. En réalité, si on fait le bilan du débat entre Jordan Bardella et le Premier ministre à court terme, c'est un gain politique pour le Premier ministre. C'est un gain politique personnel parce que là où certains se posaient la question de la façon dont il allait réussir à mettre en difficulté Jordan Bardella, Il a réussi. Là où certains se posaient.
C'est d'ailleurs le seul.
Absolument. Là où certains se posaient la question de son investissement personnel dans la campagne. Là, pour le coup, il s'est investi. Personne ne pourra dire qu'il n'a pas, entre guillemets, mouillé le maillot. Mais.
Il a fait un truc.
Non, mais.
On retiendra qu'il a condescendu.
Charles, c'est toujours plus que Bruno Le Maire qui a pas mouillé la tête de liste, que Jean-Yves Le Drian qui a pas mouillé la tête de liste.
Non.
Je termine d'un mot, Charles.
Bruno Le Maire, on l'a testé en sondage, il faisait 22 à l'époque.
Benjamin Carminet.
Il a fait plein de meetings horribles avec trois personnes dans la salle.
Mais je suis désolé. Ok, mais c'est un autre sujet.
Il y a un côté petit prince à juste condescendre à faire un petit débat et puis à remonter dans sa voiture.
Je savais pas qu'il y avait le porte-parole de Bruno Le Maire.
Non, mais
c'est intéressant. On voit les équipes petites. Donc juste je termine.
Allez, Benjamin Diamet terminé.
Juste je termine. Donc pour un mouvement politique qui défend la théorie du ruissellement, le succès politique et d'estime de Gabriel Attal ne ruisselle pas sur Valérie. Parce que j'en termine par là. Par rapport à ce que disait Charles Consigny, moi je crois pas pour le coup que ce soit une question de ligne politique. S'il y a bien un sujet sur lequel la Macronie est à peu près cohérente depuis 2017, c'est son engagement européen. Ouais. Ils n'ont pas varié. D'ailleurs, le bilan de cette mandature européenne de la Commission soutenue par Emmanuel Macron, on peut en dire beaucoup de choses, mais enfin sur le soutien à l'Ukraine, sur le Covid, il y a des choses qui ont été faites. Je crois que c'est d'abord un que Valérie Ayé n'a jamais réussi à se remettre du fait d'être un plan B voire un plan C, et on a cité toutes les personnes qui avaient refusé. Et puis Valérie Ayé se retrouve pilonnée parce qu'elle est comptable du bilan.
Ben oui,
et c'était très frappant.
Quelle est la thématique qui a ouvert
les débats ce soir? C'est le pouvoir d'achat. Première préoccupation des Français, alors même que le pouvoir d'achat n'est pas une compétence propre de l'Union européenne. Sur ce sujet-là, elle se retrouve comptable de Français qui, à tort ou à raison, souvent
sont
à raison,
insatisfaits du bilan d'Emmanuel Macron,
parfois à tort sur certains chiffres.
Mais ça marche pas, Benjamin. Ça marche pas. Je suis désolé parce que tu l'as dit toi-même.
Qu'est-ce qui marche pas?
Ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que Gabriel Attal aussi, il est comptable de 7 ans de pouvoir, et mais tu as trouvé qu'il s'était très, qu'il serait
mais
très
dans
bien
un
sorti.
Débat à un moment.
Oui, mais
en fait, c'est pour ça que je pense qu'il y a un sujet personnel avec Valérie.
Non, mais c'est pas personnel. C'est qu'en fait, aujourd'hui, Gabriel Attal et Emmanuel Macron, en fait, tirent leur force du fait qu'ils sont dans l'exécutif et qu'ils font. Valérie Ayé, elle ne fait pas. En fait, elle est parlementaire. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et donc, du coup, quand elle parle, tout est sujet à caution. C'est-à-dire que genre, on dit, mais non, mais en fait, vous faites pas, vous comprenez rien, etc. Alors que quand Gabriel Attal parle, peu importe, en fait, que ce qu'ils disent soit juste ou faux. En fait, il est Premier ministre. Et ce qu'on a eu jeudi soir dernier, c'était un duel, en fait, de Premier ministre. Et c'est le Premier ministre qui a gagné le duel. Et ça paraît assez normal. Parce que c'est lui, en fait, qui a l'autorité. Il est une figure d'autorité. Valérie Ayé n'est pas une figure d'autorité
qui tire son statut. Que d'être
pas toujours. Bah, pas
le
toujours.
Fait qu'en tout
quand
cas,
tu dis c'est ça, c'est ça.
Pendant l'absence du président de la République. Au moment du débat, le président de la République n'est pas en France. En plus, c'est vraiment Attal qui a toutes les
mains. Il était en France.
Ah non, il était président de la République.
Il était en Nouvelle-Calédonie.
Il était pas sur la métropole. Vous avez raison.
Pas en métropole.
Il était en France, mais il n'était pas en métropole.
Mais il avait de bonnes raisons, quand même.
Oui, non, mais d'accord. Mais c'est quand même très curieux. Et l'autre chose, si je puis me permettre, c'est que c'est pas la première fois. Je pense que du point de vue de la, alors là, je vais parler boutique. Du point de vue de la stratégie politique, il y a quand même une erreur qui se perpétue. C'est que les Français s'attendent, quand il y a une élection, qu'on les traite bien et qu'on leur envoie vraiment ce qu'on a de mieux en magasin, parce qu'ils sont habitués à la mère des batailles, qui est l'élection présidentielle. Là, vous avez le Rassemblement National qui vous envoie son président, son actuel leader, Jordan Bardella, que tout le monde connaît et il n'a plus besoin de présenter. Marion Maréchal, ça peut paraître plus bas peut-être, mais elle est complètement connue, particulièrement par les électeurs du Rassemblement National et de toute la droite. Elle a une sûreté de vote de 83%. Elle est à 40, je sais plus. Il y a Jordan Bardella, Marine Le Pen, Marion Maréchal.
Mais elle est à combien dans les sondages en ce moment? 5%.
Elle est à 6,5, 6.
Ouais, selon les.
Voilà. Et puis après, vous avez Manon Aubry que les gens connaissent parce qu'elle a été tête de liste la dernière fois. Ah Bellamy. Voilà, il avait fait 8. Je vous rappelle que la dernière fois, on avait dit que c'était une catastrophe et que le résultat de Bellamy était à mettre sur le bilan de Wauquiez.
Là, il vient de faire 4% la présidentielle s'il fait 8.
Oui, d'accord, mais la dernière fois, Wauquiez avait été obligé de partir à cause du score de Bellamy. Et après,
à part Glucksmann qui commence à se faire connaître, les gens n'arrivent pas à s'identifier avec cette tête de liste, et particulièrement Madame Hayet. Madame Hayet, ils n'en avaient jamais entendu parler avant, il y a un mois et demi, quand ils ont commencé à s'intéresser à l'élection européenne. C'est quand même un pari extrêmement compliqué et extrêmement périlleux de la part de l'exécutif.
Ils ont envoyé
quelqu'un que les gens ne connaissent pas, dans laquelle ils ne se reconnaissent pas.
Alors, est-ce qu'il faut qu'Emmanuel Macron se mouille?
C'est trop tard.
Il le redit aujourd'hui. Si on pense que c'est une élection où se joue une partie du destin de la France,
samedi, Julie, peut y
ce que je crois, il faut débattre. Je suis à sa disposition. La balle est dans son camp. Après l'élection, ce débat n'aura plus d'intérêt, dit-il, parce que c'est ce qu'elle propose, elle. Je suis président de la République. Et attendez, je vous lis ce qu'elle répond, elle, sur les réseaux sociaux. Si le président de la République, qui est le chef de l'État et non le chef de la majorité, descend dans l'arène électorale, alors il doit s'engager à en tirer les conséquences. Je débattrai avec Emmanuel Macron s'il met sur la table sa démission ou la dissolution de l'Assemblée nationale en cas d'échec de la
Renaissance. Mais ça, c'est de la politique politicienne.
C'est de la popole.
Comme dirait Bardella.
Mais pour répondre à votre question, mais il va se mouiller d'ici la fin de la campagne.
Mais comment?
D'abord, la dernière semaine, c'est la semaine des commémorations, donc vous allez voir. La dernière semaine, il y a 3 jours en Normandie, donc vous allez entendre parler libre pendant 3 jours. Et à mon avis, en toile de fond, il y aura les européennes. Rien ne dit que samedi, il ne va pas débarquer au meeting ou il va y avoir une vidéo.
Mais il n'y aura pas de débat avec Marine Le Pen.
Non, il n'y aura pas, c'est trop tard, c'est fini.
C'est un jeu de...
Idée à saugrenue, Anna Cabana.
Donc je reprends.
Ah, mais de toute façon, c'est un petit jeu, si vous voulez, pour l'un comme pour l'autre. C'est-à-dire que, en fait, elle a dit au départ, quand on l'a interrogé il y a quelques mois, elle avait dit oui.
Le 21 avril, je l'interroge.
Elle vous dit oui.
À ce moment-là, personne n'en parle et elle me répond.
Oui.
Sic, oui. Pourquoi pas? Je n'y suis pas opposé.
Voilà.
Et elle fixe pas de conditions à l'époque.
Et quand des confrères de presse écrites l'interrogent, idem. Elle dit, mais au contraire, bien sûr. Et quand Emmanuel Macron fait fuiter, parce que c'est l'Élysée qui fait fuiter à la suite d'un dîner autour de Pierre Charon. Donc l'Élysée.
Bien arrosé.
Voilà. Donc, absolument, un dîner bien arrosé. Et donc, La Tribune Dimanche, notre journal à Bruno et moi, n'est-ce pas, est le premier à sortir cette information selon laquelle, en effet, Emmanuel Macron réfléchit sérieusement à l'idée de débattre avec elle, et à ce moment-là, elle répond pas via l'AFP, c'est-à-dire une réponse très solennelle, très emberlificotée, très longue, pour expliquer pourquoi elle ne veut pas débattre avant les élections européennes, mais seulement après. Et là, Emmanuel Macron remet une pièce dans la machine, donc à nos confrères du Parisien, en revenant de Nouméa, en disant, la déclaration que vous venez de lire, Julie, sur le destin de la France qui se joue, et que donc c'est maintenant qu'il faut débattre avec elle, et elle répond... là encore, en renchérissant. Donc, si vous voulez, au fait, et l'un et l'autre veulent dire, même pas peur, chiche, et en fait, non, etc. On est dans des petites manœuvres.
Mais en fait, personne n'ira.
Là, on est vraiment dans ce que Jordan Bardella appelle la popole. Donc, il faut pas être dupe, ni de ce que lui fait fuiter, ni de ses réponses à elle.
Charles, sur ce débat qui n'aura donc pas lieu.
Non, mais je pense que c'est transparent. Marine Le Pen est échaudée par les deux précédents débats. Mais en même temps, je trouve qu'elle est un peu pleutre sur le sujet, parce que c'est des gens, si vous voulez, c'est des prestidigitateurs, c'est-à-dire... Ils ont l'air compétents, ils arrivent avec un costume cravate, il y a pas de notes, ils sont tout dans la tête.
Vous parlez de qui? Parce qu'il y en a qui ont des notes.
Que
hein.
Que ce soit Macron ou Attal, ils ont ce truc de pas avoir de notes.
Bardella, il avait des notes.
Oui, mais souvenez-vous que Macron, au débat d'entre-deux-tours de 2022, n'avait presque aucune note. Et en 2017, pareil, alors que Marine Le Pen était arrivée avec des pochettes, etc. Bon. Et derrière, il y a le bilan. Et moi, je pense que c'est ça. Il pense qu'il peut tout changer avec un débat, un coup médiatique, etc. Mais il y a le bilan que les gens vivent. Et c'est ça aussi qui crée les votes. C'est pas que des débats, c'est pas que l'arme truc-muche contre machin. Vous allez voir, il a le même âge, il est aussi bien. Non, il y a des gens qui souffrent tous les jours. Il y a eu cette dame qui a été virée des Restos du Cœur parce qu'elle a été au meeting du RN et qui racontait ses galères quotidiennes. Il y a les salaires que les gens payent, il y a le coût de la vie, il y a toutes ces choses-là qui font... Il y a l'insécurité, effectivement, et c'est pas être d'extrême droite que de remarquer qu'il y a de l'insécurité et qu'elle est parfois corrélée à l'immigration, comme l'a relevé ce matin Maud Bréjon, suscitant un nouveau trou d'air dans la campagne de Renaissance. les gens, oui, s'y mettent à plusieurs pour scier le bateau. Mais ça, c'est quelque chose qui... Voilà, au bout de 7 ans, ce qu'ils ont du mal à comprendre, parce qu'ils pensent que tout se règle avec un numéro de claquette, c'est qu'au bout de 7 ans, ils sont comptable du bilan et qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les Français ne sont pas satisfaits de l'état dans lequel ils laissent le pays au bout de 7 ans. C'est ça le nœud de la chose. Donc, c'est pour ça que je pense que ça ne pourra pas s'améliorer, quels que soient les débats.
Je voulais qu'on écoute d'autres réactions post-débat, celle de François-Xavier Bellamy au micro de Thomas Soulier.
Vous l'avez-vous vécu, vous, ce débat de l'intérieur ?
J'espère que les Français l'ont bien vécu, c'est ce qui compte le plus. C'est qu'ils aient pu être éclairés sur le choix qu'ils ont à faire. Moi, ce que j'ai regretté surtout, c'est qu'aujourd'hui, les formations politiques n'assument pas leur bilan et leur choix au Parlement européen. J'ai entendu, par exemple, beaucoup de déclarations d'amour aux agriculteurs, mais en réalité, la gauche, les Verts, les élus macronistes ont voté pour le projet de décroissance agricole que nous avons combattu, parce que nous écoutions les agriculteurs nous dire leur colère, leur révolte, leur inquiétude. Aujourd'hui, voilà, on doit aux Français la clarté. Si on veut que la démocratie retrouve son sens, il faut lui rendre aussi cette transparence.
Il y a eu des moments un petit peu de conflit, un petit peu dur. Vous étiez un petit peu en retrait dans ces moments de conflit-là. Vous attendiez un petit peu que ce soit votre tour. C'est quoi ? C'est une stratégie politique de dire « je suis un peu en retrait des querelles politiques » ou c'est une difficulté pour vous de rentrer dans le dur ?
Non, moi, je crois qu'on a le devoir, quand on rentre dans la vie politique, de respecter les règles, de respecter les électeurs, c'est-à-dire aussi de respecter ses contradicteurs. Je pense qu'il y a des règles qui s'appliquent à la courtoisie élémentaire. Ça n'empêche pas d'être ferme dans les positions qu'on défend, mais il faut aussi le faire avec la clarté nécessaire, parce que je pense que voilà, quand tout le monde joue à s'interrompre, personne n'y gagne, et surtout pas à la transparence du débat. Donc moi, je pense d'abord aux Français. Le respect qu'on leur doit, c'est de garantir que chacun puisse défendre ses positions en se laissant entendre et en allant au bout de son raisonnement. C'est vrai que j'ai regretté parfois que ce soit peut-être un peu chaotique à certains moments du débat.
Ce genre de débat, à 13 jours du scrutin, selon vous, ça peut faire bouger les lignes ?
Ça peut éclairer les Français. Moi, je crois que j'ai beaucoup regretté, je l'ai dit, l'organisation de ce débat par le service public entre M. Attal et M. Bardella, parce que je crois que cette élection européenne n'a rien à voir avec la répétition du deuxième tour de l'élection présidentielle. Le vrai sujet de cette élection, c'est qu'est-ce qu'on va faire de l'Europe ? Et qui va demain avoir une majorité pour changer de cap en Europe ? Et moi, je représente aujourd'hui la force politique, la droite européenne qui va, d'après toutes les études d'opinion en Europe, gagner cette élection. Nous aurons demain le plus grand nombre de chefs d'État, de gouvernement autour de la table pour porter les décisions dont l'Europe a besoin. Et c'est nous qui pouvons faire le changement de cap que les Français attendent. Parce que oui, nous avons besoin que l'Europe change aujourd'hui pour rendre nos pays plus forts et pour nous rendre la maîtrise de notre destin.
C'est vrai qu'on avait beaucoup parlé la semaine dernière du coup d'éclat de François-Xavier Bellamy. Moins présent aujourd'hui, Benjamin.
La difficulté, Julie, c'est que le type de coup qu'a pu faire François-Xavier Bellamy dans cette campagne, que ce soit en se rendant à Sciences Po ou effectivement ce qu'il a pu dire la semaine dernière sur le plateau de France 2, ça ne peut pas se répéter toutes les semaines. Et c'est vrai que ce soir, il y avait un décalage entre la façon dont, au fond, il avait réussi à se sortir un peu de ce costume de bon élève et la prestation du soir, où c'était pas mauvais. Mais simplement, il n'y avait rien qui dépassait. Le problème de François-Xavier Bellamy, et on en parlait tout à l'heure sur les coups, certains ont dit les happenings, c'est qu'en réalité, ceux qui ont applaudi, notamment sa critique du choix de la polarisation entre Gabriel Attal et Jordan Bardella, sont des gens qui ne voteront pas pour François-Xavier Bellamy. Quand on a vu la semaine dernière toute une partie de la classe médiatico-politique, si j'ose dire, sur les réseaux sociaux, dire formidable François-Xavier Bellamy, quel courage, il a raison, je partage. C'était des gens qui, en réalité, pour certains, venaient de la gauche.
C'est un avis d'ailleurs partagé par le PS.
Absolument, qui intellectuellement trouvaient que François-Xavier Bellamy avait les mots justes, sans forcément que cela ne se traduise en vote. Et la réalité, c'est que là, maintenant, on va rentrer dans le money time de la campagne, dans les 15 derniers jours, et François-Xavier Bellamy continue de faire face au même problème auquel fait face la droite républicaine, c'est-à-dire qu'il est pris en étau entre, d'un côté, Jordan Bardella, qui, franchement, ce soir, ne disait pas des choses radicalement différentes que ce que pouvait dire François-Xavier Bellamy. Et à d'autres moments, des électeurs de droite qui peuvent se dire il y a une réforme de l'assurance chômage qui a été annoncée, il y a Gérald Darmanin, Catherine Vautrin, ouais. Bruno
Pourquoi
Le Maire
pas la liste Renaissance.
Au gouvernement. Ouais. Franchement, si on est de centre-droit, on peut aussi considérer que Valérie est la candidate.
Mais c'est vrai qu'on les sent coincés. ils ne savent pas comment se faire leur place, se frayer un chemin entre ces deux parties-là.
Mais François-Xavier Bellamy, il faut voir quand même une chose, c'est que bien sûr que Benjamin a raison sur la non-traduction, si vous voulez, dans les intentions de vote. En même temps, ça a réussi quand même à redorer son blason aux yeux même de ses petits camarades LR qui, franchement, ont tordu le nez quand il a été désigné comme tête de liste. Parce que, si vous voulez, sa prestation aux dernières élections européennes a été jugée par les ténors de son parti comme étant catastrophique. Donc quand il est réinvesti, si vous voulez, il y a beaucoup, beaucoup de ricanements dans les rangs des Républicains. Et là, sur les coups d'éclat, au fond, le fait d'avoir rompu la gang de lisseurs qui est la sienne et juste l'intello bien élevé, gentil, versaillais, le fait d'avoir réussi, si vous voulez, à briser ce carcan-là, eh bien, ça lui a permis d'être regardé plus, disons, oui, avec plus de considération politique, parce qu'on considère, autour d'Éric Ciotti et de Laurent Wauquiez, on considère que c'était pas un vrai homme politique. La question désormais se pose, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore complètement gagné ses galons, mais il est sur une voie nouvelle sur ce terrain-là.
Ils sont trop timides, que ce soit Wauquiez, Ciotti, Bellamy, ils sont trop timides. Aujourd'hui,
c'est pas les trois mêmes, quand même.
Aujourd'hui en France, un électeur de droite, il a des sujets d'exaspération multiples. Il est surtaxé, il est surréglementé, on le bassine toute la journée avec des délires woke, il est obligé de subir cette idéologie, il est obligé de subir la gabegie des
dépenses publiques. Ne faites pas Marion Maréchal, s'il vous plaît.
C'est vrai, il est obligé de subir l'interdiction.
Marion Maréchal, sortez de ce corps.
L'interdiction des bagnoles dans Paris qui vient d'être décidée, il doit subir tout ça. Et donc, qu'est-ce qu'il a envie de dire? Il a envie de dire, lâchez-moi la grappe. Donc, je suis désolé de dire, aujourd'hui, un candidat de droite, pour redonner de l'envie de voter à droite, il faut être beaucoup plus tranchant que ça. Il faut dire...
Vous auriez dû choisir Charles Consigny.
Bellamy devrait dire, je suis pour les...
Il devrait
défendre les 4x4 contre la redistribution, si vous voulez.
La vérité,
ils en auront le bol de cette nafta.
Oui, non. La vérité sur François-Xavier Bellamy, c'est que moi, je crois qu'il fait une bonne campagne, mais que ce soir, il a subi. Il n'a pas réussi à prendre la parole au bon moment et que dans le match, à l'intérieur, parce qu'il y a beaucoup de matchs en fait, à l'intérieur de ce grand match, le face-à-face avec Marion Maréchal ce soir, je trouve que c'est plutôt Marion Maréchal qui prend le dessus, en tous les cas, qui développe ses arguments. Bon, moi je ne suis pas forcément pour ses arguments, mais en tous les cas, elle développe ses arguments. Là où François-Xavier Bellamy, qui avait été meilleur ces dernières semaines, ce soir il est un peu en retrait. Alors est-ce qu'il était sur un peu tellement content de son coup de la semaine dernière que ce soir il s'est laissé
le format
Il est difficile à 8 comme
ben
ça.
Oui, il est écrasé, c'est difficile, c'est quelqu'un qui est plus réservé. Encore une fois, il est pas assez tranchant.
Vous voulez qu'on réécoute
Raphaël
Glucksmann,
plus électeur de droite.
Vous voulez qu'on réécoute Raphaël, il y a un petit peu plus d'enjeu quand même sur Raphaël Glucksmann qui, on le rappelle, est à un peu plus de 13% dans les derniers sondages. Dans le dernier sondage est là pour BFM TV. Intéressant ce qui se passe à gauche, ils se taclent entre eux en fait. C'est ce qui s'est passé ce soir, on regarde.
Moi, je n'ai pas François Hollande qui me soutient et je crois qu'on a besoin de clarté. Et je le dis à des millions d'électeurs de gauche, on ne lutte pas contre l'extrême droite en remettant en cause l'austérité, en acceptant le marché européen de l'énergie qui fait exploser nos factures.
Vous ne luttez pas contre l'extrême droite, vous faites de moi votre type principal. C'est le cas depuis 6 mois. Vous avez l'extrême droite à 40%, Manon Aubry. Allez, concentrez-vous sur l'extrême droite. Lâchez-moi un peu les baskets, ça fait 6 mois. Là.
Voilà, lâchez-moi les baskets et concentrez-vous sur l'extrême droite.
Oui, bon, c'est des arguments, c'est des petites piques lancées comme ça aux débeautés. Moi, ça me
rappelle... Non, mais c'est quand même intéressant, ça dit beaucoup de ce qui se passe à gauche, quand même.
Au sein de
la NUPES.
Non, ça dit de ce qu'ils essayent de faire. Ça dit pas forcément sur ce qui se passe véritablement à gauche. Ça ne dit rien, en fait, de ce que les électeurs et les électrices, le 9 juin, voteront. Moi, ça me rappelle, c'est un off, en fait, qui est ressorti, là, il y a pas longtemps, d'un débat entre Jacques Chirac et Lionel Jospin de 95, où on les voit post-débat, discuter le bout de gras, et il y a Jospin qui dit, mais de toute façon, les débats, ça sert pas à grand chose, ça sert juste à exciter les militants. Et c'est à peu près tout. Moi, je pense que ce soir, ce qu'on a vu, c'est des gens, il y avait 8 personnes, et ils avaient chacun des positions qui étaient parfaitement identifiées, et ils ont jamais, plus ou moins, avec plus ou moins de clarté, avec plus ou moins de brio, avec plus ou moins de punchline bien senti, ou je sais pas quoi, ils sont jamais sortis de leur couloir de nage.
Et c'est tant mieux, leur proposition. La proposition du Parti communiste, elle est claire. La proposition de la France insoumise, elle est claire. La proposition de François-Xavier Bellamy, elle est claire. La proposition de Jordan Bardella, elle est claire. Et puis, voilà. Et c'est aux Français et aux Françaises de décider en fonction de ce qu'ils ont entendu, de ce qu'ils ont creusé. Mmh. Mais en fait, on n'est pas allé, je suis désolé de le dire, et c'est pas ce débat particulièrement, mais... Sur la Palestine, on sait très bien ce qu'ils vont raconter avant qu'ils ne le disent. Sur la question du pouvoir d'achat, on sait très bien les propositions que fait la gauche et puis les propositions que fait la droite. Sur la question
mais donc
de l'écologie
quoi, pardon,
aussi.
Ces débats, ils servent
ce que je veux dire, ils ne servent pas à rien. Ils servent à organiser déjà des espaces politiques.
Ouais,
d'abord pour les militants, ouais, comme le disent, je m'en réfère à Lionel Jospin et Jacques Chirac, et je suis assez d'accord sur ce point avec ces deux-là.
Pablo, le débat que tu ouais. cites entre Lionel Jospin et Jacques Chirac, c'est 95. Ouais. C'est un débat où en réalité, c'est d'ailleurs la spécificité de ce débat d'entre-deux tours, c'est que
il est horrible.
C'est que Jacques Chirac savait qu'il avait gagné ouais. et Lionel Jospin savait qu'il avait
c'est
perdu. C'était un débat
c'est
qui a été considéré ouais. comme le plus soporifique de tous les débats où rien ne se jouait.
D'accord.
Voilà.
Là, demain, on va voir s'il s'est joué quelque chose ce soir.
Non, mais
pour répondre à ce que tu dis, sur est-ce qu'il y a une surprise dans les positions qui sont tenues par les uns et les autres? Non, pour la bonne et simple raison que cette campagne, certes, les Français sont en train de s'y intéresser parce que là, on rentre dans le moment
tout dernier
fort,
moment.
On rentre dans le moment fort de la campagne. Mais sinon, les positions, elles sont connues. Ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, la politique, c'est pas seulement des idées, c'est aussi de l'incarnation. Et donc, c'est des moments de vérité que de voir la façon dont Valérie Ayé, en difficulté, n'est pas capable de répondre à quand tu lui poses la question de savoir s'il faut reconnaître l'État palestinien. De voir que Manon Aubry, même si la stratégie de mettre la question palestinienne au cœur de la campagne est sujette à caution, elle réussit à en faire un moment de débat. Et c'est intéressant aussi de voir, dans ce genre de débat à 8, quelles sont les cibles des uns et des autres. Et c'est pour ça que là, on vient de voir l'extrait de Raphaël Glucksmann disant à Manon Aubry « Lâche-moi les baskets ». Cet extrait, il est intéressant parce que ça veut dire qu'elle a choisi de cibler le social-démocrate, ce qui, au fond, est la traduction électorale de la stratégie de Jean-Luc Mélenchon qui veut faire une sorte de stratégie de la terre brûlée pour pouvoir apparaître en 2027 comme le
candidat. Qui craint de voir revenir...
Et ça dit aussi, Julie, et j'en termine par là, ça préfigure ce que sera la stratégie des uns et des autres au lendemain du 9 juin. Parce qu'en fait, ce qu'on a vu là, les équilibres politiques, ce sera la même chose le 10 juin. On aura la partie socialiste qui, si Raphaël Glucksmann fait 15, dira, regardez, l'hégémonie à gauche, c'est terminé, la France insoumise, il faut recomposer.
C'est aussi de fond. En fait, l'opposition de Manon Aubry et de Raphaël Glucksmann sur la question des retraites, c'est une question de fond qui n'a pas été traitée par la gauche
intéressant
depuis maintenant 2 ans.
Les cibles des uns et des autres, disait Benjamin. La cible de Jordan Bardella, c'était Renaissance. On écoute Jordan Bardella.
Si Emmanuel Macron ne subit pas une défaite électorale très lourde le 9 juin prochain, ça va être un coup dur porté au pouvoir d'achat des Français. Donc, le pouvoir d'achat des Français est aujourd'hui menacé comme jamais. Et moi, je ne me résous pas à vivre dans une société où les Français sont à l'euro près et où le 10 du mois, eh bien, une fois les factures réglées, les Français n'ont plus d'argent sur leur compte en banque. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait du pouvoir d'achat l'un des thèmes majeurs de cette campagne.
On s'est presque habitué, Arnaud Stéphane, à ce que Jordan Bardella, ça y est, ce soit acté, ce soit le grand gagnant. Il est au-dessus de 30% dans tous les cas. 33 disent même les tout derniers sondages. Pourtant, dernier débat, il a accumulé les contradictions, les volte-face que Gabriel Attal n'a pas manqué de lui faire remarquer. On a l'impression qu'il est inatteignable, intouchable. Qu'est-ce qui explique qu'il soit si haut dans les sondages si on prend un peu de recul? À moins de deux semaines.
Peut-être une très très grande méfiance et peut-être un très très fort rejet d'une partie de l'électorat du président de la République. Je veux dire voilà et qui se trouve un champion en la personne de Monsieur Bardella sur cette élection européenne en se disant on va donner un vrai coup de semonce, on va montrer qu'on n'est pas content, on va aussi transformer d'année en année. Je veux dire, c'est pas une surprise le score du Rassemblement National, enfin, du Front National puis du Rassemblement National n'a cessé de progresser ces dernières années. Et en plus, il se trouve que la droite républicaine, dite républicaine, n'a pas envoyé ses meilleurs enfants pour se défendre et pour essayer de créer un espace de droite. Voilà. Aujourd'hui, c'est soit Bardella, soit Madame Ayé. Je suis pas sûr.
Donc vous dites qu'il ne séduit pas en tant que tel. C'est pas le personnage en tant que tel qui séduit. C'est il bénéficie des faiblesses des uns et des autres.
Il y a un problème au Rassemblement National. C'est qu'il y a deux marques. Voilà, y a Marine Le Pen et il y a Jordan Bardella. Jordan Bardella ne sera pas le candidat en 2027. C'est Marine Le Pen. Mais Marine Le Pen n'est pas dans cette campagne, pas plus que le président de la République ne l'est. Donc, ils
ouais,
sont...
mais peut-être que Arnaud, le temps, il y a quand même un tandem qui s'est constitué avant la campagne. Marine Le Pen a présenté très en amont Jordan Bardella comme son futur Premier ministre.
Ce qui n'est pas une bonne idée, mais je...
Oui, mais en tous les cas, visiblement, ça permet, j'allais dire, d'élargir le râteau et sans doute de ramener, on voit bien dans les catégories qui commencent à adhérer sur cette campagne au Rassemblement National, une progression chez les retraités, rester très fort chez les jeunes, peut-être aussi chez les cadres. On voit quand même que Jordan Bardella, il ramène sans doute un électorat qui élargit le spectre
habituel. Je suis pas sûr, je pense qu'il y a une temporalité qui permet à un électorat qui, jusqu'alors, essayait toujours de trouver une alternative pour ne pas voter Rassemblement National et que face à l'absence d'une alternative, notamment à droite, vote pour le Rassemblement National. Ils ne peuvent pas être convaincus par Valérie Pécresse. Enfin, je veux dire, il faut être sérieux.
Charles Consigny.
Non, moi, je pense en effet que la liste RN, elle bénéficie de la faiblesse de l'incarnation de la droite républicaine et de la stratégie et de l'ensemble, même si, à mon avis, le programme économique du RN ne peut pas convaincre un électeur de droite parce que c'est un programme économique plutôt à gauche quand on regarde le détail des choses. C'est quand même la retraite à 62 ans, c'est quand même... aucune réforme sur le plan du marché du travail, sur le plan des charges sociales, etc. Donc bref, il y a une partie du programme qui est quand même assez à gauche, mais ça, c'est tout le talent, entre guillemets, de Marine Le Pen, d'avoir senti que le pays avait besoin de ça, en fait. Était peut-être pas prêt pour un programme beaucoup plus dur de ce côté-là. Et puis moi, je pense que la politique, ça doit donner envie aux gens. Vous savez, c'est Reagan qui disait « la politique, c'est l'art de donner envie ». Ça doit donner envie aux gens et ça doit les mettre dans l'idée que demain sera meilleur, ça doit être positif. On peut pas gagner, je pense, sur des campagnes exclusivement négatives, sur des thèmes de fermeture. Il faut arriver à dégager quelque chose de positif. Et je pense que la nouveauté du RN, c'est pour ça que moi je pense qu'Emmanuel Macron joue avec le feu en faisant son unique adversaire, c'est d'avoir commencé par la jeunesse de ce Bardella qui sait faire TikTok, etc., qui présente bien, et par le fait que Marine Le Pen, du coup, est un peu plus détendue qu'avant et plus axée sur son image. Quand je regarde, par exemple, leurs photos sur les réseaux sociaux, je suis très frappé de voir qu'ils arrivent maintenant à dégager une image positive. C'est ça le changement.
Et c'est Bardella, c'est quoi 1 200 000 abonnés sur TikTok?
Par exemple, c'est colossal. Ça veut dire qu'il a beaucoup de jeunes, par exemple, qui sont prêts à voter pour lui. Et donc, les jeunes, ils parlent chez eux. Ils parlent le soir à table, au dîner, avec leurs parents. Tout ça crée une caisse de résonance qui est nouvelle, à mon avis, pour le RN.
Mais moi, pour moi, je voudrais quand même rebondir sur ce que disait Pablo sur le fait qu'un débat comme ça, ça change rien. Pour moi, alors en effet, là où je te rejoins, Pablo, c'est que clairement, il y avait la gauche et la droite. Et donc il y avait une renaissance de la gauche et de la droite, mais ce qui change tout, c'est que ça modifie les rapports de force à l'intérieur même de chaque camp. Regarde ce qui se joue dans le match, ce duel entre Manon Aubry et Raphaël Glucksmann. Tu vois bien que là il y a une tension très grande, précisément parce que le rapport de force, c'est-à-dire que le curseur en fait à gauche, eh bien dépend de ce qui va se jouer d'ici au 9 juin. Dépend à la fois du talent de chacun des candidats et de sa façon de grignoter les parts de marché à l'intérieur de chaque camp. Et d'ailleurs, c'est pour ça la meilleure punchline de Glucksmann, il l'avait travaillé, hein, il lui dit à Manon Aubry, concentrez-vous un peu sur l'extrême droite, lâchez-moi les baskets, ça fait 6 mois que vous me lâchez pas les baskets. Précisément parce que lui, il veut surjouer le fait qu'il ait l'élan et la dynamique à gauche au détriment de la NUPES, de Jean-Luc Mélenchon et donc de Manon Aubry. De la même façon, à droite, qu'est-ce qui se joue? La façon dont Jordan Bardella a appelé Marion, Maréchal, Marion. Donc uniquement par son prénom. La façon dont il a fait ça, elle a eu un sourire. Derrière, il y a eu un gros plan sur elle avec un sourire. Elle était un peu étonnée, un peu amusée. Elle ne savait pas très bien comment il fallait le prendre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, quand au micro de BFM, à la fin du débat, il est interrogé sur ce point par Thomas Soulier, il assume complètement. Il dit, mais c'est pas un scoop, on se connaît. Et en fait, Jordan Bardella, il a déjà en tête le fait que Marion Maréchal va avoir envie de revenir au sein même, ça fait partie de ses craintes en tout cas, ça fait partie des anticipations qui sont les siennes. Donc là aussi, comment ça se joue à la droite de la droite, entre d'un côté le Rassemblement National et Reconquête de Zemmour. C'est-à-dire que tout ça c'est important, et toutes ces reconfigurations, Pablo, elles se dessinent dans des débats comme ça. Donc en fait, il y a des cristallisations. On a des particules qui volettent au-dessus de chacun des candidats et qui se cristallisent plus ou moins dans des moments comme ça.
Ce que fait Jordan Bardella, c'est qu'il est obnubilé par le score pour l'instant dans les sondages de Marion Maréchal. Il se dit si j'arrive, elle descend suffisamment, je peux installer l'idée que son vote n'est pas un vote utile et que le seul vote utile...
Ça a commencé un petit peu d'ailleurs. Elle baisse un petit peu, voilà. Et on voit que Jordan Bardella, il récupère
exactement
un peu des voix.
Et en plus, il appelle à la mobilisation.
Depuis quelques jours.
Il appelle de plus en plus à la mobilisation, aller voter, etc. Parce que une fois de plus encore, sa grande crainte, c'est que son électorat,
c'est la dispersion.
Trop racénéré, se dise, c'est pas la peine qu'on aille voter. Bardella est en tête et qu'il n'atteigne pas son socle psychologique qui est 30%.
De toute façon, Reconquête et le RN ont vocation au bout d'un moment à se rassembler. Et vous allez voir qu'après les élections européennes, la Marion Maréchal, elle va retrouver la voix de sa maison
initiale.
On verra,
parce qu'Éric Zemmour et Sarah Knafo, je ne suis pas certain. Ce qui est certain, c'est qu'on voit s'enclencher.
Tout ça, c'est bon et blanc.
Deux votes utiles un peu. Ce soir, c'est assez visible et les dernières enquêtes le montrent. C'est une partie du vote de Maréchal qui est en train de s'échapper vers Jordan Bardella, et une grande partie maintenant du vote Toussaint qui s'échappe vers Glucksmann. Là, c'est les deux, et ces deux candidatures sont quand même un peu en danger.
On continue d'écouter les réactions des différents candidats, des différentes têtes de liste après ce débat de 3 heures. La réaction de Valérie Ayer au micro de Thomas Soulier, pardonnez-moi.
3h12 de débat, je le disais, on vous a senti un petit peu parfois en retrait. Comment on l'explique? C'est la fin de campagne, c'est la fatigue, c'est le fait de les laisser s'écharper entre eux?
J'ai été présente, j'ai passé les messages principaux sur chacun des sujets. Je pense que ça a été un débat intéressant pour voir qu'on avait des points de divergence majeurs sur chacun des thèmes qui ont été envisagés. En tout cas, moi, je me suis attelée à expliquer, convaincre les Français que non seulement ils avaient besoin d'Europe, je pense que c'est un point important, et que ma liste, elle porte le projet le plus utile pour les Français, pour leur pouvoir d'achat, pour leur sécurité, et aussi pour faire face aux grands défis du monde.
Sur la partie climat ou encore immigration, vous êtes pris directement à Raphaël Glucksmann. C'est désormais lui votre principal rival.
Moi, je m'attache à démontrer la pertinence et l'utilité de mon projet face à celui de l'ensemble des candidats. On a Jordan Bardella qui aujourd'hui est très haut dans les sondages, et je ne m'y résous pas. Je pense que fondamentalement, le projet pour l'Europe, c'est le projet contre l'extrême droite. Et puis après, j'ai des divergences de vues profondes avec d'autres candidats. Vous citez Raphaël Glucksmann, mais François-Xavier Bellamy ou d'autres, évidemment.
Est-ce que ce genre de débat, selon vous, ça peut faire changer l'opinion des Français et faire bouger peut-être les sondages?
Je pense que c'est utile. Les Français commencent progressivement à s'intéresser à l'élection européenne. Et évidemment, ces débats, ils sont intéressants pour exposer les différents projets.
Historiquement, ce genre de débat n'a jamais fait tellement bouger les lignes.
Alors, historiquement, si on prend sur l'histoire des débats en général, un débat qui a fait bouger les choses, sans doute, c'est 1981, où ça s'est vraiment joué très peu entre Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand. Dans l'histoire des débats pour les européennes,
que
j'ai bien vécu. Il y a le Cohn-Bendit-Bayrou qui était sur France 2, avec notamment cette qui était dans une émission qui à l'époque s'appelait À vous de juger, animée par Arlette Chabot, et avec cet échange qu'il y avait eu entre Daniel Cohn-Bendit qui dit à François Bayrou en le tutoyant, mais mon pote, tu seras jamais président de la République. Une réponse de François Bayrou franchement pas sympa sur des prises de position de Daniel Cohn-Bendit sur des mœurs post mai 68. Cet échange était resté comme une opposition entre les deux, mais c'est vrai que la prestation de Daniel Cohn-Bendit avait été jugée bonne.
Et il avait eu un impact.
Et il s'était envolé, il avait terminé de mémoire à 16 et quelques pourcents. Ouais. Donc ça, c'était resté. Là, la réalité, c'est que on a du mal à voir ce qui pourrait être l'équivalent même de ce qui s'est passé en 2019, c'est-à-dire l'envolée de Yannick Jadot dans les tout derniers jours. Parce que il y a une logique de vote utile qui va bénéficier à Raphaël Glucksmann, ou qui peut bénéficier à Raphaël Glucksmann. Jordan Bardella, il est très haut avec une sûreté de vote qui est assez impressionnante, notamment par rapport aux craintes qui sont celles du RN de voir un scénario comme ce qui s'était passé au régional se reproduire, c'est-à-dire un moment où à la fin les électeurs ne viennent pas. Là,
la sûreté de vote, c'est pas ça.
Non, je sais bien. Il y a deux choses. Il y a la sûreté de vote, c'est-à-dire le fait de pas changer. Mais un scénario similaire à ce qui s'était passé pendant les régionales.
On peut pas savoir.
Non, mais sur les européennes,
50% d'abstention, on peut pas savoir.
Non, mais ce qui est un scrutin national qui, avec plus de participation qu'au régional, on peut parier, voilà. mais c'est assez peu plausible.
Un mot, je ne pas 18, hein, c'est sûr.
Non, un mot, parce qu'on parlait tout à l'heure de Jordan Bardella. Ce qui est frappant, au-delà de ses scores dans les sondages, la sûreté du choix, le fait qu'il réussit...
La sûreté du choix, je crois que le RN, c'est 90%.
C'est le plus élevé.
Donc ils ont un socle.
82.
Ça dépend des enquêtes, en fait.
Oui, mais la dernière LAB pour...
Ce qui est intéressant avec,
BFM et la Tribune
avec Jordan Bardella, c'est de regarder aussi la composition... de son score présumé dans les sondages. C'est-à-dire qu'un des faits politiques qui restera si le score de Jordan Bardella se confirme, c'est de voir à quel point il a été en capacité au travers de cette campagne de séduire des électorats qui jadis étaient extrêmement éloignés du Rassemblement National. C'est-à-dire les retraités, c'est-à-dire des catégories socioprofessionnelles plus élevées. Charles disait à raison tout à l'heure, le programme économique du RN est un frein. C'est vrai, mais Jordan Bardella est beaucoup moins effrayant pour une partie des électeurs que Marine Le Pen, qui effectivement est vue comme socialisante sur un certain nombre de sujets économiques. Et la chance de Jordan Bardella, c'est que là, pour le... ce qui est pas faux, absolument.
Oui, mais
et
c'est comme ça qu'elle a les classes populaires.
Ah, c'est vrai. Et oui, mais Jordan Bardella les perd pas. Donc voilà. Et la chance dans ce débat des européennes, c'est que précisément la question des retraites, la question des impôts,
on n'en parle pas
parce que c'est un sujet national. Donc en fait, les sujets économiques à l'échelle européenne ne montrent pas tant de différence entre par exemple François-Xavier Bellamy et Jordan Bardella, puisque prenons un sujet précis, la question des traités de libre-échange. Ils disent à peu près la même chose, à peu de choses près. Donc de ce point de vue-là, c'est la transfiguration électorale du Rassemblement National à travers le vote Jordan Bardella est assez impressionnante et restera comme
un effet politique. Et on a vu d'ailleurs le candidat du Parti communiste tenter un coup contre Jordan Bardella, parler de son héritage, vous êtes le descendant de Pétain. Ça ne parle plus aux gens.
Alors, franchement, je ne pense pas que... La problématique de Léon Desfontaines, c'est que c'est le seul candidat qui est en dessous de 5 aujourd'hui. Lui, j'allais dire, c'est un jeune candidat qui, peut-être que même certains téléspectateurs ce soir l'ont vu pour la première fois. Il fait de la notoriété. Donc lui, de toute façon, sa ligne, elle est simple. Faut taper le premier, pour faire un coup.
C'est Bardella qui a tapé le premier.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, chez les Français.
Il l'a déjà fait la semaine dernière, et honnêtement, ça lui réussit parce que, du coup, on parle un peu de lui.
Mais ce que je veux dire, c'est que chez les Français.
Une dent particulière contre le communisme, ça paraît normal, c'est historique.
Chez les Français, ça ne fait plus écho.
Beaucoup moins.
Ce genre d'argument.
Beaucoup moins.
Quand Jordan Bardella disait, voilà, la normalisation est mon combat, ça s'est réussi finalement.
Beaucoup moins. Et puis Jordan Bardella, encore une fois, c'est le candidat du Rassemblement National qui ne s'appelle pas Le Pen. Donc aussi, ça fait partie de la normalisation accélérée de ce
mouvement. C'est quand même le phénomène de droitisation globale. Ouais, pardon, mais de toute la société, d'une assez grosse partie des médias. Enfin, quand même, le politiquement correct a sauté. Il est aussi le bénéficiaire en même temps que le symbole de ce basculement incroyable.
D'ailleurs, c'était hallucinant ce qui se passait sur le plateau. Enfin, il y a les discours qui sont tenus. Moi, je suis désolé d'être choqué alors que maintenant, c'est monnaie courante sur les plateaux télé, à la radio, voire dans les colonnes des journaux. Mais ce qui s'est passé sur l'immigration, vous aviez quand même toute une partie des candidats de droite et d'extrême droite qui tenaient des propos. Mais il y a 20 ans, moi, j'aurais aimé que genre un type comme Jacques Chirac, comme Jospin, etc., regarde.
La haine que Marion Maréchal avait
à la bouche lorsqu'elle parlait des migrants, mais honnêtement, c'était juste flippant. La société française n'a pas la même acceptabilité aujourd'hui.
Bruno Pablo, c'est que Raphaël Glucksmann, qui sur ce sujet a une position qu'il essaye de faire passer comme équilibrée, c'est-à-dire il y a des voies légales, mais ceux qui n'ont pas vocation à être là doivent être renvoyés, passe comme étant une position très à gauche, alors que en réalité, il y a des voies légales et puis de l'autre côté, il faut renvoyer ceux qui sont en situation illégale.
C'est pas très clair d'ailleurs. C'est le moment où il est le moins bon. Hein.
Mais absolument. De toute façon, sur l'immigration et sur le nucléaire, Raphaël Glucksmann n'est pas clair parce qu'il est tenu. Sur l'immigration, les sociaux-démocrates au Parlement votent le pacte d'asile d'immigration. Lui vote contre. Il est isolé. Alors qu'en réalité, il explique que la famille social-démocrate est très importante au niveau du Parlement européen. De la même manière, il vote les traités de libre-échange alors que lui n'en veut pas. Donc ça, il y a des contradictions.
Mais c'est vrai.
Mais absolument. Mais c'est vrai que le basculement sur les questions migratoires est extrêmement frappant. Et là, je suis d'accord avec, avec Pablo sur ce point.
Ou sur Rafah, hein. Enfin, je veux dire, à un moment, a été, on a parlé, en fait, de ce qui s'est passé cette nuit au Proche-Orient, à Rafah, ce massacre absolument abominable. Et là, à nouveau, vous avez eu, genre, le clivage gauche-droite. Et cette fois, je mets Valérie Ayé dedans, qui a dit, genre, bah oui, c'est abominable. Alors, les autres, ils étaient là, non, faut donner plus d'armes à Israël, etc. Enfin, je veux dire, c'est hallucinant. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas reconnaître un massacre qui a eu lieu, qui est documenté. Enfin, je veux dire, il suffit d'ouvrir Le Monde ou Le Figaro pour voir qu'il y a eu une atrocité en fait qui a été commise la semaine dernière à Rafah. Et ça, c'est impossible pour une partie de la droite et de l'extrême droite. Ce qui pose quand même un problème sur le rapport en fait qu'on a collectivement en tant que nation à la réalité de ce qui se passe.
La suite, c'est quoi d'un mot ? A priori, on se dirige vers un... Je sais pas si fiasco c'est le bon mot, mais en tout cas un échec pour le camp Macron qui compte sur les JO pour faire oublier tout ça.
Alors la suite, vous voulez dire
l'après scrutin.
Le président de la République a un peu défloré sa position à élection européenne, leçon européenne, voulant enjamber très très vite et pressentant un mauvais résultat. Clairement, il laisse plutôt entendre que il changera pas de Premier ministre parce que Jordan Bardella en face va réclamer une dissolution de l'Assemblée nationale. Lui, il va essayer de nationaliser le résultat quand le camp macroniste va essayer de le dénationaliser. Mmh. Bon, après les élections européennes, c'est toujours la même chose, hein. C'est 8-15 jours à commenter les résultats et on passe à autre chose.
Et on passe à autre chose.
Évidemment, j'allais dire la chance entre guillemets du pouvoir macroniste, c'est qu'il y a les Jeux Olympiques et ils vont avoir hâte qu'on soit dedans.
Pour faire oublier tout ça le plus vite possible. Merci beaucoup. Merci à tous les six. Merci à tous les six
d'avoir
commenté ce débat à mes côtés.
Vous allez vous baigner dans la scène, Charles?
Avec Macron et Hidalgo, je ne pense pas.
Voilà. Ils ne veulent plus aller dormir. Ils veulent rester là.
Moi, je vais me baigner sur la Côte d'Azur.
Merci beaucoup. Allez, très bonne nuit sur BFM TV.